Oui. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de présenter, mais brièvement, Alexandra Michalevski, qui est chercheur au CNRS au Centre Léon Robin, spécialiste de l'histoire du médio et du néoplatonisme, en particulier de Plotin. Alexandra a écrit un livre très, très important, très intéressant, qui est centré sur le thème de la causalité des formes intelligibles dans la philosophie de Plotin, en liaison avec les débats qui sont développés dans le médioplatonisme, la tradition platonicienne antérieure. Et à la suite de ces recherches, on peut dire qu'il y a une articulation directe, elle a entrepris un projet très, très ambitieux et intéressant, qui est une nouvelle édition des fragments d'Atticus. Mais aujourd'hui, c'est un autre texte qu'il va être question, qui est le Didascalikos d'Alkinoos. Et vous allez donc nous faire avancer en quelque sorte dans la chronologie, dans l'histoire de l'interprétation de la pensée de Platon. Donc je vous laisse la parole en me réjouissant de vous entendre.
Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi beaucoup les organisateurs, de manière générale, pour cette invitation à venir parler d'une réception bien particulière du Parménide, celle qu'on trouve donc dans le Didascalikos d'Alkinoos. Alors, il existe un ancien débat dans la littérature secondaire concernant la datation et l'attribution de ce texte. Alors, je n'entre pas ici dans les détails, je rappelle simplement qu'il est à présent admis que cette œuvre, donc le Didascalikos, peut être attribuée à un certain Alkinoos et datée approximativement du milieu du IIe siècle de notre ère, peut-être même d'ailleurs de la fin du IIe siècle. En effet, la littérature secondaire a longtemps et abondamment considéré ce manuel, car il s'agit d'un manuel d'enseignement des doctrines de Platon, comme une sorte de ce qui était convenu d'appeler de représentant typique de la manière dont étaient exposées les doctrines platoniciennes à l'époque impériale. Donc il était souvent pris comme une sorte de standard de la manière dont le platonisme était exposé à cette époque. Et tout récemment, donc il y a quelques semaines, est paru un article de Ricardo Chiaradonna dans un collectif sur la réception de la théologie aristotélicienne, dirigé par Gueltas Guillomar, qui a essayé de nuancer un petit peu cette approche, en montrant que la connaissance du vocabulaire technique de la théologie aristotélicienne, et plus particulièrement donc de métaphysique lambda, était beaucoup plus forte dans ce texte qu'elle pouvait l'être dans d'autres textes platoniciens de la même époque, ce qui a autorisé prudemment Ricardo Chiaradonna à peut-être rapprocher un peu plus chronologiquement ce texte de Plotin et à restreindre un peu son label de, entre guillemets, représentant typique du médioplatonisme. Peut-être nous y reviendrons dans la discussion, je voulais simplement évoquer cet aspect. Alors, quant à l'étude de la place du Parménide dans le médioplatonisme en général, et dans le Didascalikos en particulier, cette étude a aussi fait couler beaucoup d'encre dans la littérature secondaire. Aussi, avant de vous présenter l'axe un tout petit peu latéral qui sera le mien pour aborder ce sujet, je voudrais tout d'abord rappeler, de manière très brève, l'état de la question. En effet, de manière traditionnelle, la question qui se pose lorsqu'il est question de la place du Parménide dans le Didascalikos est celle de savoir si l'on peut étendre le champ de sa réception au-delà de ce qu'on appelle un simple exercice logique. Alors la réponse est à mon sens oui, car il y a des références explicites dans certains passages du texte, notamment dans les chapitres théologiques, essentiellement dans les chapitres 9 et 10, des allusions au Parménide, notamment concernant le champ d'extension des formes ou la nature du Dieu. Alors, je procéderai donc ainsi aujourd'hui dans mon exposé. Je rappellerai d'abord, dans un premier temps, dans quelle mesure, mais ça vous l'avez déjà peut-être vu la semaine passée avec Carlos Stehl, dans quelle mesure on peut voir dans le Didascalikos la trace d'une interprétation dite logique, mais je pense que cet aspect a déjà été traité. Ensuite, je voudrais plus spécifiquement suivre le traitement de deux questions qui sont liées et qui trouvent leur origine dans l'une des apories essentielles de la première partie du Parménide, à savoir quel est le domaine d'extension des formes et comment rendre raison de la présence dans le sensible d'intelligibles qui restent en eux-mêmes intacts et inaltérés. Alors, tout d'abord, la place du Parménide dans les exégèses médio-platoniciennes semble restreinte à une place bien définie et somme toute limitée, comme le notait en effet Jean Trouillard dans la phrase d'ouverture de son célèbre article « Le Parménide et son interprétation néoplatonicienne », je cite la phrase d'ouverture, il dit ceci « Le néoplatonisme succède au moyen platonisme le jour où les platoniciens se mettent à chercher dans le Parménide le secret de la philosophie de Platon. » Alors, que voulait dire Jean Trouillard dans cet incipit lapidaire, notamment que l'une des différences entre ce qu'il est convenu d'appeler moyen platonisme, c'est-à-dire le platonisme de l'époque impériale jusqu'à Plotin non compris, et le néoplatonisme, réside dans le choix du dialogue platonicien considéré comme central pour donner les clés de l'architecture métaphysique de Platon. Et chacune de ces deux périodes de l'histoire du platonisme antique est centrée autour de deux dialogues principaux et structurants, le médioplatonisme essentiellement autour du Timée, ce qui n'empêche pas évidemment que d'autres extraits de textes considérés comme soit trop soient mobilisés, notamment par exemple le livre 10 des lois sur la question de l'âme, ou encore le Phèdre ou le Phédon, et le néoplatonisme autour du Parménide, même si là encore, évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif. Pourquoi ? Parce que dans le néoplatonisme, les hypothèses de la seconde partie de ce dialogue sur les différentes façons d'articuler l'un et le multiple sont considérées comme la clé permettant de comprendre l'engendrement hiérarchique des principes et des classes divines. Alors, sans entrer dans les détails, puisque notamment le professeur Carlos Tell, à travers de nombreux et prestigieux travaux, a déjà proposé une étude très complète de cette réception, j'indiquerai simplement, pour mémoire, l'état des lieux que fait Proclus lui-même au début de la théologie platonicienne, c'est donc notre texte 1 dans l'exemplier, où en 1.8, Proclus dresse une sorte d'état des lieux de ses réceptions du Parménide. Alors, il a indiqué au chapitre précédent, au chapitre 7, que, je cite, « Le Parménide est le seul dialogue de Platon qui permet d'avoir sous les yeux la totalité et l'intégralité de la théologie. » Donc, le Parménide étant considéré comme le dialogue théologique, donc qui permet de rendre compte des classes divines. Et au chapitre 8, après avoir rappelé que la théologie platonicienne est rassemblée dans le Parménide, tandis que le Timée, je cite, contient la science de la nature dans son entier, donc un degré en quelque sorte plus bas, Proclus indique qu'il va s'opposer dans sa propre exégèse à deux types d'adversaires, d'ailleurs deux types qu'il ne faut pas combattre avec la même intensité. Les premiers, donc je cite, pensent qu'il ne faut reconnaître au Parménide aucune autre intention que l'exercice du raisonnement selon le pour et le contre, je cite, et qu'il ne faut pas y introduire une foule de doctrines indicibles et intellectuelles qui n'ont rien à voir avec ce dialogue. Les seconds, plus respectables que ces premiers et amis des formes, tiennent que la première hypothèse est relative au premier dieu, la deuxième, au second dieu, et à tout le type d'être intellectif, et la troisième, au type d'être qui viennent ensuite. Alors, les seconds, donc, sont plus respectables que les premiers, parce qu'ils voient, dans les trois hypothèses de la seconde partie du dialogue, des indications relatives au premier, deuxième et troisième dieu. Donc le premier type d'exégèse, comme Proclus l'indique quelques lignes plus loin, n'a, dit-il, plus court à son époque, et renvoie probablement, très probablement, donc, au type d'exégèse des médioplatoniciens, qui utilise ce dialogue en vue d'une gymnasia de l'esprit, donc d'un exercice pour s'exercer à reconnaître le vrai du faux. Le second type d'interprétation, Le second type d'interprétation fait référence au mode exégétique développé par Plotin et ses disciples immédiats, qui voit dans ce texte platonicien un exposé des premiers principes, même si, selon Proclus, il n'arrive pas à rendre compte réellement et correctement de l'ensemble de la hiérarchie des classes divines. Alors, que signifie dès lors développer une lecture entre guillemets logique du Parménide ? Cela peut signifier donc que ce texte fournit essentiellement des exemples de raisonnement et de manière d'argumenter, et que de ce point la feuille de présence et que de ce point de vue le programme du Parménide peut être rapproché de celui des topiques d'Aristote, tout comme les exercices du corps permettent d'avoir une bonne constitution au corps, de même les exercices de l'âme lui permettent de développer sa faculté d'examen et de discerner la vérité, qui évidemment sont la clé de la bonne santé de l'âme. Alors, pour comprendre l'arrière-plan qui rend possible ce type d'exégèse, il faut évidemment avoir présent à l'esprit quelques éléments. Le Didascalikos, nous l'avons dit, est un texte qui date, grosso modo, de au moins la seconde moitié du IIe siècle, qui est une période où, pour le dire assez vite, le platonisme se développe sous une forme à la fois systématique et dogmatique, c'est-à-dire on considère que le platonisme est porteur d'un certain nombre de thèses que l'on peut enseigner et discuter, et en abandonnant l'interprétation sceptique qui avait eu cours au sein de la Nouvelle Académie. L'ambition de présenter la philosophie de Platon sous la forme d'un ensemble de doctrines susceptibles d'être enseignées, donc des dogmata, hein, c'est évidemment le programme que propose ce manuel, c'est-à-dire un enseignement des tones dogmaton, des dogmata, des thèses platoniciennes, et organisé dans un ordre systématique, devait évidemment en passer aussi par la construction d'une logique, d'un arsenal logique, pour construire cet ensemble de doctrines systématiquement organisée, un peu comme c'était le cas dans le stoïcisme. Et dans ce processus de construction, la lecture des œuvres logiques a, bien sûr, d'Aristote, occupé une place très importante, et facilitée notamment par le renouveau concomitant de l'aristotélisme. Alors, c'est la raison pour laquelle on trouve dans ce manuel, donc le Didascalikos ton Platonos dogmaton, une réécriture des thèses platoniciennes filtrées au travers d'emprunts aux autres écoles. Alors, l'ouvrage expose les doctrines selon une organisation thématique en trois parties, que l'on trouve exposées au chapitre 3, et que je vous résume. Donc, la première partie, la partie théorétique, consiste, je cite, en la connaissance des êtres, et cette partie théorétique comporte à son tour trois sous-parties. La théologie, qui s'occupe des, je cite, causes immobiles et premières, et de tout ce qui est divin. Deuxième sous-partie, la physique, qui, je cite, étudie le mouvement des astres, leur révolution, leur retour périodique et l'organisation de notre monde. Puis, troisième sous-partie, la mathématique. Donc, première partie théorique. Deuxième partie, la partie dite pratique, qui concerne les actes à accomplir. Et enfin, la partie dialectique, qui est la connaissance des raisonnements, c'est-à-dire des techniques formelles que sont, et là il y a une énumération, la division, l'analyse, la définition, le syllogisme et l'induction. Or, comme l'indique Alkinos quelques lignes plus loin, cette étude, donc l'étude des raisonnements, n'est pas principale pour le philosophe, mais elle est nécessaire. Elle est anankaion. Et donc dans cette partie, donc la partie dialectique, qui correspond en fait aux chapitres 5 et 6 du Didascalikos, on trouve une lecture en surimpression de certains éléments du Parménide et des écrits logiques d'Aristote. Et on trouve dans ce chapitre une fusion permanente des références issues de traditions platoniciennes et aristotéliciennes qui laissent à penser que son auteur voyait dans ces deux traditions une sorte d'héritage commun. Alors on voit cette surimpression dans le fait que, selon Alkinos, par exemple, le Parménide offre un certain nombre d'exemples de syllogismes, qui sont concentrés dans ce dialogue. Cela se voit également dans son interprétation de l'origine des catégories, qui est tout à fait intéressante. Ça correspond à notre texte 2, qui est un extrait du chapitre 6, où l'auteur indique que, d'autre part, dans le Parménide et dans d'autres dialogues, Platon donc a indiqué les 10 catégories. Donc, comme si, en réalité, l'exposé des catégories remontait déjà à Platon, donc il ne serait pas spécialement un exposé aristotélicien, mais qu'on aurait déjà des traces disséminées dans certains dialogues de Platon. Alors, là je fais une petite parenthèse, simplement pour dire que chez les platoniciens impériaux, on peut en gros distinguer deux manières de se rapporter aux catégories. Donc soit une lecture plutôt critique, qui n'implique pas spécialement d'ailleurs un anti-aristotélisme de principe. C'est le cas par exemple de Eudore d'Alexandrie, qui reproche essentiellement d'ailleurs à Aristote de limiter les catégories au monde sensible, soit une lecture qui, comme c'est le cas ici, indique que finalement Aristote s'inscrit sur cette question dans la suite d'un héritage platonicien, et on trouve une lecture similaire par exemple chez Plutarque dans le traité sur la génération de l'âme dans le Timée en 1023 E, où il indique que Timée 37 B.C. offre, dit-il, une première et sommaire présentation des 10 catégories. On trouve une indication similaire dans le commentaire anonyme au Thé et Tête. Donc ça c'était un petit aperçu rapide sur les emprunts logiques au Parménide dans le Didascalikos, mais on trouve également, et c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui, d'autres usages de la lecture du Parménide dans ce manuel, qui excède son simple usage dialectique ou logique. Cette réception, qui concerne notamment le passage 130 CD du Parménide, qui traite de ce qu'il est convenu d'appeler le domaine d'extension des formes, s'effectue à travers le prisme de la lecture croisée d'autres textes clés du corpus platonicien, et principalement du Timée. Alors, même si, comme d'autres platoniciens impériaux, Alkinos tire du Parménide d'autres éléments exégétiques que simplement des figures de logique, on est néanmoins loin encore de l'interprétation d'un Plotin qui tire évidemment systématiquement toute une théorie beaucoup plus avancée de l'engendrement des principes à partir des trois hypothèses de la seconde partie du dialogue. Alors, je voudrais plus spécifiquement regarder avec vous le chapitre 9 du Didascalikos, qui est consacré à l'exposé de la nature et de la causalité des formes, formes qui, dans leur unitotalité, le monde intelligible, constituent l'un des trois grands principes de la cosmologie platonicienne, donc l'idéa, qui est associé donc avec le Dieu et la matière. Alors, ce chapitre est une sorte de classique dans la littérature de l'époque impériale, car il dresse un catalogue, présenté d'ailleurs par l'auteur lui-même comme l'exposé déjà d'une sorte de vulgate du platonisme, concernant le champ d'extension des idées. Et en fait, ce texte du chapitre 9... excusez-moi, il y a deux fois un texte 2. Donc, ça correspond au deuxième texte 2 de mon exemplier, vous m'excuserez. Donc ce texte est l'expression d'une sorte de formulation standard de la question qui établit une sorte de liste d'items de ce dont il existe ou non des formes. Alors je vous renvoie donc, excusez-moi, au deuxième texte 2, donc sur la page 1 et 2 de mon exemplier. Je vous lis la traduction, qui est en fait une traduction de travail. Donc, ils, donc les platoniciens, horizontaux, ils définissent l'idée comme le paradigme éternel des réalités cataphysiques, donc selon la nature ou conforme à la nature. La majorité de ceux qui se réclament de Platon est d'avis qu'il n'y a pas d'idée des réalités artificielles, comme un bouclier ou une lyre, ni de réalité contre nature, comme la fièvre ou le choléra, ni d'idée de réalité particulière, comme Socrate ou Platon, ni non plus d'idée de quoi que ce soit de vulgaire, comme la crasse ou un fétu, ni d'idée des relatifs, tels que plus grands ou supérieurs. Les idées sont en effet les intellections, les noéseis, éternelles et parfaites en elles-mêmes du Dieu. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur ce texte, je vais essayer de synthétiser un petit peu le propos. On notera tout d'abord que c'est immédiatement, après avoir donné une définition de ce qu'est l'idéa, donc comme étant un paradigme éternel des réalités selon la nature, donc c'est immédiatement après avoir donné cette définition que est abordé le domaine d'extension des formes, ce qui veut bien dire que leur champ d'extension, c'est-à-dire de savoir de quoi il y a ou non des formes, est lié, directement lié à la définition de l'idéa comme paradigme des réalités cataphysiques. Alors, cette définition est elle-même liée au caractère central qui est conféré au Timé dans les exégèses médioplatoniciennes, puisque c'est autour de ce dialogue que s'organise l'essentiel de l'interprétation de Platon, développée à l'époque impériale, et notamment qui est donnée cette importance particulière aux questions cosmologiques et à la philosophie de la nature, comme d'ailleurs l'avait très bien remarqué Proclus dans le texte que nous avons, enfin le texte qui précédait celui que nous avons vu en théologie platonicienne 1.7. Alors, les commentateurs donc ont beaucoup glosé sur ce passage. Göransson notamment a vu dans ces quelques lignes la trace de différents peut-être niveaux ou types d'écriture dans le didascalikos, notamment avec ce pluriel horizontai qui semble mettre les platoniciens peut-être avec une forme de distance. Bon, je pense que cette lecture est un peu excessive. Je pense qu'il s'agit tout simplement dans ce passage d'une sorte de rapport doxographique sur une sorte déjà de standardisation du domaine d'extension des formes dans le platonisme, avec une sorte de présentation doxographique de la question, et avec une série de catalogues des réalités dont il n'existe pas de forme. Alors, cette expression de la définition de l'idée comme paradigme des êtres cataphysiques se retrouve avec quelques variantes donc dans d'autres textes doxographiques. Je vous ai donné à titre d'exemple, et c'est tout à fait non exhaustif, les textes de Sénèque et Diogène Laërce, mais on en a d'autres évidemment, Cherius Didyme ou autres, et avec vous remarquerez de légères variations, c'est assez intéressant. Vous remarquez par exemple que lorsque Sénèque définit l'idée platonicienne, évidemment il stoïcise cette définition, idea est eorum quae natura fiunt, c'est-à-dire que dans la perspective de Sénèque, l'idée c'est donc c'est l'exemplaire éternel des réalités faites par la nature, c'est-à-dire que la présentation même de cette idée platonicienne qui est l'exemplaire paradigmatique des réalités sont faites par la nature. Vous remarquez également cette légère digression chez Diogène Laërce avec un fusei, c'est-à-dire des réalités qui par nature subsistent. Donc on a selon en l'occurrence les textes une sorte de variation de cette formule, et ici dans le Didascalikos, le cataphysine montre bien une sorte d'idée de référentialité, c'est-à-dire de ce qui est fait selon donc la nature. Alors toujours dans cette définition, On sait évidemment que Proclus, dans le commentaire au Timée, l'a fait remonter à Xénocrate, hein, dans un passage célèbre commentaire au Parménide, pardon. Proclus l'a fait remonter donc à Xénocrate, et à l'époque impériale, cette définition donc de l'idée comme paradigme éternel des réalités conformes à la nature reçoit différentes attributions et souvent est attribuée à Platon lui-même. Et ici, Alkinos l'attribue de manière plus générale aux platoniciens en général, ce qui indique sans doute, comme l'a déjà bien suggéré Peter Doane, que finalement cette référence plus générale aux platoniciens implique que la définition, cette définition de l'idée est déjà tellement courante au second siècle qu'elle peut passer pour une définition authentiquement de manière orthodoxe, si j'ose dire avec beaucoup de guillemets, platonicienne. Alors, notre extrait donc du chapitre 9, c'est ce que nous venons de lire, s'inspire évidemment pour partie du début de l'entretien entre Parménide et le jeune Socrate au début du dialogue, et je voudrais de manière très brève rappeler le contexte du début donc de l'entretien entre Parménide et Socrate. On sait que la première partie du Parménide pose une succession d'apories concernant la nature des formes qui, à terme, semblent invalider l'hypothèse même de leur existence et rendre impossible toute théorisation de la participation du sensible à l'intelligible. Et en 130b2-3, Parménide et Socrate donc, conviennent de la nécessité de séparer les formes des êtres qui en participent. Puis Parménide demande à Socrate ce qui peut participer à de telles idées, et donc par ricochet, de quoi il existe des idées. Alors le jeune Socrate est prêt à admettre sans difficulté qu'existent des formes des relations, ressemblance, unité, pluralité, et sans hésitation non plus qu'existent des formes du juste, du beau et du bon. Il hésite en revanche à accorder des formes pour les éléments ou les réalités naturelles, le feu, l'eau ou l'homme. Puis, finalement, Parménide invite Socrate à considérer un dernier cas problématique. Peut-on admettre des formes de réalité viles ou triviales, comme peuvent l'être le poil, la boue ou la saleté? Alors, Socrate commence par rejeter catégoriquement une telle supposition, puis reconnaît, ça c'est intéressant, que la question l'a malgré tout plus d'une fois mis dans l'embarras. Alors, pour bien comprendre comment les platoniciens impériaux en sont venus à développer leur liste standard de ce dont il y a et il n'y a pas de forme, il faut évidemment avoir présent à l'esprit que cette question est passée au filtre de cette définition des formes comme modèle des réalités selon la nature, produites par le démiurge et qui sont les intellections, les noéseis parfaites de celui-ci. Alors, comme l'indique le tout début du chapitre 9, et c'est mon texte 3, on a une définition qui ouvre le chapitre 9 de l'idée. Et le texte dit ceci: l'idée, considérée par rapport au Dieu et son intellection, donc noesis au tout, considérée par rapport à nous, elle est le premier intelligible, par rapport à la matière, elle est mesure, considérée par rapport au monde sensible, donc modèle, nous l'avons vu, et considérée par rapport à elle-même, elle est ousia, elle est substance. Donc on voit comment en réalité cette définition de l'idée à la fois comme paradigme et comme pensée du Dieu est liée pour comprendre, pour donner des réponses à ce dont il y a ou non des formes à partir du questionnaire établi au début du Parménide. Alors la définition des idées comme noéseis théou, donc comme pensée du Dieu, a évidemment plusieurs origines. Il y a toute une littérature sur la question, notamment par John Dillon. Et ce que l'on peut dire, pour résumer un peu les choses, c'est qu'elle se développe dans le médioplatonisme, essentiellement à partir de la perspective du Timée, qui donne aux formes essentiellement une fonction cosmologique. Ce dont il y a des formes, ce sont des réalités de la nature produites par le démiurge ou ses auxiliaires. Donc, la causalité des formes étant envisagée principalement sous cet angle cosmologique, Alkinos exclut naturellement l'existence d'idées d'artefacts qui n'entrent pas évidemment dans ce domaine. Et dès lors, tout ce qui n'appartient pas de manière plus générale à l'ordre de la nature n'a pas non plus sa place dans les pensées divines. Donc c'est ce même argument qui sert à refuser l'existence de réalité donc, contre nature, c'est-à-dire de réalité qui viendrait perturber l'ordre naturel, comme les maladies, puisque les pensées divines étant elles-mêmes parfaites, il est impossible qu'existe des paradigmes de réalité par elles-mêmes mauvaises ou imparfaites ou contraires à la nature. Alors, concernant les individus, ce qui est souligné dans ce texte, c'est que n'existe d'idéa que de l'espèce. On ne peut avoir d'idée de l'individu en tant que tel, et l'éternité des pensées divines est en contradiction avec le caractère périssable des individus. Ce même argument de la perfection vaut pour exclure, évidemment, l'hypothèse de l'existence de formes des relatifs pour les objets vulgaires ou indignes, puisque les intellections du Dieu étant parfaites, le Dieu ne peut rien penser de trivial ou d'imparfait. Alors, se pose une question à partir de là, qui est de savoir comment rendre compte, d'une certaine manière, de ce qui échappe au champ d'extension des formes, tel qu'énoncé dans notre texte, mais qui, dans le domaine naturel, a néanmoins un fondement rationnel. Alors, très probablement, mais là nous n'avons pas d'indication très précise, peut-être que le didaskalikos permet d'en rendre compte en mobilisant une autre classe d'intelligibles inférieures, donc non pas les formes transcendantes, mais peut-être ces formes liées à la matière, nous allons étudier cela tout à l'heure. Et donc ceci m'amène à avoir donc un autre aspect, celui de l'articulation des deux classes d'intelligibles dans le didaskalikos, destinée à rendre compte de la présence de l'intelligible dans le sensible et de la qualification de la matière. Alors cette question, celle de l'articulation de deux niveaux d'intelligibles, se trouve dans le didaskalikos associée à un autre débat, ce qui complique un peu les choses, un débat classique à l'époque impériale, concernant la question du caractère corporel ou incorporel de ce qui vient qualifier la matière, et donc la question du caractère des qualités. En effet, à l'époque impériale, cette question fait l'objet de nombreuses discussions, et dans un rapport qui mobilise plusieurs protagonistes, les platoniciens, les aristotéliciens et évidemment les stoïciens. Pour le dire rapidement, dans la perspective du portique, la qualité, c'est-à-dire ce qui configure les corps, est un souffle possédant une certaine tension, et la qualité ne dépend pas elle-même d'un principe incorporel, mais elle est une partie du principe actif général de l'univers, le pneuma divin, qui est lui-même évidemment un corps. Donc les qualités corporelles agissent sur la matière et produisent ainsi l'individu. Donc pour les stoïciens, l'origine du corporel ne peut elle-même être que corporelle, puisque seul un corps peut agir sur un autre corps. L'enjeu des platoniciens est d'essayer de montrer que les qualités ne sont pas des corps et que dès lors, l'explication corporaliste ou matérialiste du monde ne fonctionne pas. Alors, un petit examen, un petit survol du didaskalikos permet bien de voir comment cette perspective de polémique anti-stoïcienne va venir en fait brouiller les repères de distinctions notionnelles mobilisées dans d'autres contextes. Et notamment brouiller cette question de la distinction des deux classes d'intelligibles dont je vous parlais à l'instant. Donc on trouve dans la plupart des textes de l'époque l'existence, c'est un classique, de deux niveaux d'intelligibles. Les intelligibles transcendants d'une part, regroupés sous le collectif idea, donc, que nous avons vu, et des intelligibles présents dans la matière et inséparable d'elle, nous allons voir bientôt, donc c'est la distinction qui est établie au chapitre 4. Et la fonction, alors c'est une question vraiment extrêmement difficile, la fonction de cette seconde classe d'intelligibles, et notamment la question de savoir si ces intelligibles exercent ou non un rôle causal, et même s'ils en ont un, est une question très délicate, parce que en réalité, dans le Didascalicos, nous avons très peu d'informations, c'est surtout réduite à une série d'allusions, ce qui a pu donner... en fait, des lectures assez différentes de ces intelligibles seconds. Je vous renvoie juste pour information. Alors que, en gros, depuis une trentaine d'années, la littérature secondaire voit dans ces intelligibles seconds quelque chose qui joue un rôle causal au niveau du sensible. Très récemment, donc dans son livre qui vient de sortir, George Boystone, dans son sourcebook, a pris résolument la thèse adverse en définissant très clairement les intelligibles seconds du Didascalicos comme des simples configurations de la matière inertes et les identifie purement et simplement à la simple morphée que par ailleurs, Alkinos prend bien soin de distinguer. Alors, je n'entre pas beaucoup, enfin j'y reviendrai un peu, mais pas beaucoup. Juste, j'indique l'existence de cette thèse radicalement polémique, à mon sens excessive, pour simplement vous dire que le Didascalicos est lui-même suffisamment problématique comme texte source pour que l'on puisse en tirer des interprétations assez différentes. Alors le chapitre 4 que je vous ai donné, donc c'est le texte 4 de l'exemplier, établit donc une série distinctions. Il commence par distinguer donc au sein des intelligibles entre ce qu'il appelle les intelligibles premiers, donc c'est-à-dire les idées, et qui correspondent donc aux formes séparées de la tradition platonicienne, qu'il regroupe sous le singulier collectif d'idéa, et ce qu'il appelle les intelligibles seconds, donc tadotera, qui sont appelés eidae, donc eidos, eido pluriel, qui sont epita ule, donc sur la matière, akorista onta tes ules, et donc inséparables de la matière. Donc, d'une part, l'idéa séparée, et les eidae qui sont sur la matière et inséparables d'elle. Puis, après avoir établi cette distinction, Alkinos en établit une autre au sein des sensibles, au nombre desquels compte la qualité. Et d'autre part, puisque parmi les sensibles, les uns sont premiers, comme les qualités, par exemple la couleur et la blancheur, les autres accidentels, par exemple le blanc au sein d'un objet coloré, et en outre l'agrégat concret, de même y aura-t-il aussi la sensation s'appliquant au premier appelée première, et celle s'appliquant au second, appelée seconde. Donc, dans ce texte, qui correspond au chapitre 4, Alkinos semble bien établir une distinction nette entre les intelligibles et les sensibles, et donc, parmi les intelligibles, on a idea et eide, et parmi donc, les sensibles premiers, comme la qualité. Or, au chapitre 11, ces distinctions semblent abandonnées, Alkinos rapprochant les qualités des formes dans la matière. Et on a l'impression que malgré donc, la distinction du chapitre 4 entre un eidos incorporel et une qualité corporelle, l'auteur semble établir au chapitre 11 une équivalence entre l'eidos dans la matière et la qualité. En effet, ce chapitre définit les qualités comme des incorporelles et thématise une puissance d'action des qualités qui, normalement, incombe aux formes et semble faire passer donc la qualité dans le camp des intelligibles. Alors, cette oscillation, comme l'a indiqué Mansfeld dans son article célèbre, est due évidemment au fait que, au chapitre 4, nous sommes dans une perspective plus proprement épistémologique, tandis que le chapitre 11 est celle d'une polémique anti-stoïcienne, précisément pour montrer le caractère incorporel des qualités, ce qui a pour conséquence que l'auteur tend à gommer la différence entre eidos et poiotes, pour des raisons de stratégie argumentative. Alors en effet, le chapitre 10 avait montré que le Dieu, à l'aide de toutes sortes d'arguments, ne peut être corporel Et au chapitre suivant, donc au chapitre 11, il est montré que les qualités elles-mêmes sont incorporelles, Alkinos reprenant évidemment le jeu de mots sur poiotes poiein, en montrant que seul peut agir, seul peut poiein, une qualité qui elle-même n'est pas corporelle. Alors, je vous ai donné donc sans traduction ce petit texte 5, Eidei, parce qu'on va le voir les difficultés de traduction ensemble, Eidei poiotetes asomatoi, kai to demurgikon touton a asomaton. Donc, il y a une ambiguïté dans l'interprétation du génitif touton. Donc, soit on comprend que Demiurgikon est le principe qui met en œuvre ses qualités, c'est-à-dire que le dieu est incorporel, et en fait cela est assez cohérent avec l'argumentation générale qui vise à montrer l'incorporalité du dieu, donc soit donc les qualités sont incorporelles et le principe qui en est le démiurge, est incorporel aussi. Soit, et c'est une hypothèse évoquée par Mansfeld, qui d'ailleurs ne l'évoque simplement à titre d'hypothèse possible, on comprend que les qualités sont incorporelles et que leur pouvoir démiurgique est incorporel. C'est-à-dire que ce qui en elles est démiurgique est aussi incorporel. En réalité, dans les deux cas, l'idée est assez similaire, c'est-à-dire que ce soit le dieu qui produit les qualités qui sont des incorporelles ou que les qualités aient elles-mêmes une puissance d'action incorporelle, il s'agit bien de montrer que ce qui agit sur la matière et la transforme n'est elle-même pas un corps. Alors, par-delà cette polémique, on peut remarquer quelque chose un petit peu intéressant lié à la question du chapitre 9 sur le domaine d'extension des formes. En effet, suspendons provisoirement la question de savoir si dans ce texte il faut identifier la qualité et les intelligibles secondes du chapitre 4. Nous avions vu tout à l'heure que le chapitre 9 refusait, par exemple, qu'existent des idées des relatifs ou des individus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idées qui permettent de rendre compte des différenciations des membres d'une même classe. Et peut-être que si l'on évoque qu'il y a précisément des réalités qui viennent produire des caractères distinctifs et individuants, on peut peut-être avoir ici une réponse pour avoir des réalités qui rendent compte de manière rationnelle des qualifications sur la matière sans forcément remonter aussi haut que l'idéa séparée du monde intelligible. C'est-à-dire que, précisément, on aurait une sorte de niveau intermédiaire d'explication qui permettrait de ne pas remonter jusqu'à l'idéa qui est un renvoi évidemment à l'espèce, et on aurait peut-être ici quelque chose qui s'apparenterait à une sorte de contrepartie platonicienne des logos stoïciens, c'est-à-dire de puissance de qualification, mais qui serait incorporelle et elle-même liée et dépendante de paradigmes supérieurs et séparés. Alors, j'ai encore un petit peu de temps.
Oui, tout à fait.
Hein, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, de manière plus générale, ce qui se joue derrière ce débat physique concernant la manière dont s'opère la qualification de la matière est en réalité donc une interrogation plus générale sur l'origine et le type de causalité de ce qui vient structurer et former la matière pour produire le sensible. Dans le Didaskalikos, la tentative précisément donc d'articuler les formes transcendantes à d'autres principes de qualification incorporelle. Or, ce qui rend très difficile la compréhension de ce manuel, c'est que la subordination des formes dans la matière aux formes transcendantes n'est en réalité jamais expliquée clairement, et la nature de leurs liens est laissé dans l'ombre. Je vous renvoie à mon texte 6 qui est un extrait donc du chapitre 10 du Didascalikos, qui pose lui encore un certain nombre de problèmes. Donc, on a la définition de ce qu'est un corps comme étant un sundasma, donc un composé, une association, à partir de la matière, avec des formes, hoper exomoyotai tais ideai. Alors, soit on comprend, comme le fait Louis Ambudet, que hoper reprend eidus et traduit de la manière à peu près suivante. Tout corps est une sorte d'assemblage, sundasma ti, de la matière, kai tu sun ote eidus, et de la forme qui va avec, forme qui, donc sachant que Hopper reprend donc évidemment, enfin, qui se rend semblable aux idées, kai metekei oton dus phraston de tina tropon, donc qui se rend semblable aux idées et y participe d'une façon difficile à exprimer. Soit on comprend, et comme le fait Boystone, ce que Hopper reprend sundasma et comprend que ce qui se rend semblable aux formes et y participe, c'est non pas la forme, mais ce sundasma, c'est-à-dire cet assemblage de matière et de forme. Alors, là, on a un vrai problème de choix de traduction. Alors, on a évidemment cette allusion au dus phraston, à la participation difficile, qui est elle-même, pour compliquer les choses, une reprise décalée d'une expression du Timé, de Timé 50 C6, où la manière dus phraston, kai tomaston, dit le Timé, se rapporte non pas à la participation du corps aux formes, ni d'une classe d'intelligible à une autre, mais ce qui est difficile et étonnant à comprendre dans le Timé à ce moment-là, c'est de comprendre comment les traces des formes entrent et sortent de la coura. Donc, pour compliquer ce passage, on a Alkinos qui reprend une formule du Timé pour la décontextualiser et l'appliquer à un autre niveau de problème. Donc, ce qui est donc cette participation qui est difficile à comprendre serait peut-être celle de tout simplement de l'assemblage du composé à des formes transcendantes. Alors, Boystone, qui choisit cette lecture, prend appui sur ce choix de traduction pour, et à mon sens, il va probablement beaucoup trop loin, en tirer la conséquence suivante, qu'il n'y a aucun rapport de participation entre les deux classes d'intelligibles, et il en tire argument pour dire que l'eidos inhérent à la matière est réductible à une simple morphée, à une simple structure, sans aucune puissance causale, ce qui va d'ailleurs dans le sens général de son interprétation de la forme immanente dans le néoplatonisme, qui d'après lui n'est évidemment pas une puissance quelconque causalité. Là, nous y reviendrons probablement dans la discussion. Je voulais simplement attirer votre attention sur cette difficulté textuelle. Alors, avant de conclure de manière plus ferme, je voudrais vous donner quelques mots de mise en perspective concernant ce débat concernant la qualification de la matière. En effet, à la fin du second siècle, donc le corporalisme des stoïciens est critiqué donc non seulement par les platoniciens, comme nous l'avons vu dans le texte, mais aussi par le péripatéticien Alexandre d'Aphrodise, qui reproche aux stoïciens d'absorber le logos, que de manière volontairement polémique il rebaptise eidos, dans la matière. Néanmoins, évidemment, sa marge de manœuvre est extrêmement serrée parce que S'il s'agit pour lui de ne pas tomber dans le corporalisme stoïcien, il ne faut pas tomber non plus dans le platonisme, donnant évidemment un rôle à l'eidos qu'il n'a pas. Son projet est de définir la forme immanente comme quelque chose qui, tout en étant inséparable de la matière, est néanmoins incorporel, mais suffisant pour garantir l'unité et la cohésion de la réalité sensible, sans qu'il soit besoin de faire appel à une forme encore supérieure, c'est-à-dire une forme de type platonicien, c'est-à-dire d'arrêter la remontée vers une forme séparée platonicienne. En effet, et c'est un véritable enjeu, si l'on arrive à montrer qu'un eidos illémorphique est suffisant pour maintenir la cohérence des réalités sensibles, au fond, à quoi bon être encore platonicien et postuler des formes transcendantes? Alors, il me semble que c'est en partie, une grosse partie quand même, pour faire face à l'ensemble de ces difficultés, notamment de ce challenge, Plotin, après cela, en vient, et là je vous indique simplement quelques pistes, à redéfinir de manière fondamentale la notion d'eidos, notamment dans son articulation à l'idéa. Dans les traités, si on fait une rapide recherche TLG, on se rend compte que Plotin utilise extrêmement peu, à peine 20 fois, 18 je crois, le terme d'idéa dans l'ensemble des traités. En effet, pour lui, parler d'idéa, c'est, et il le dit lui-même dans le traité 43 notamment, c'est fixer l'intelligible sous le genre du repos. C'est comme fixer un moment ou un point de vue dans cette course perpétuellement déjà accomplie que l'intellect divin fait à travers toutes les formes. Et à la fixité de l'idéa, Plotin préfère toujours utiliser le dynamisme de l'eidos, qui est un terme qui reçoit une signification beaucoup plus large qu'elle ne l'avait dans le platonisme impérial, où eidos, on l'a bien vu par exemple dans notre texte 4 d'Alkinos, était vraiment limité à cette catégorie des intelligibles seconds, subordonné à l'idéa. Plotin rebat les cartes et définit l'eidos de manière beaucoup plus générale comme une puissance d'information qui parcourt en fait l'ensemble de la procession, comme une unité totale qui se déploie depuis les premiers niveaux de l'intelligible incoatif jusqu'au sensible. En effet, l'eidos est la première réalité engendrée depuis la puissance de l'un et se dit aux différents niveau du réel, jusqu'à la dernière forme projetée par l'âme sur la matière. Pour lui, en effet, les formes médio-platoniciennes sont des formes sans vie, des formes inertes, parce que toujours d'une nature autre que l'intellect divin qui les contemple. Aussi, son interprétation des rapports entre l'intellect et l'intelligible se distingue-t-elle assez profondément, même si évidemment il y a beaucoup de points de contact, de celle qui était développée avant lui, à l'époque impériale, dans le médioplatonisme. Il définit en effet l'intellect comme étant identique aux intelligibles, donc ils ne sont plus seulement intérieurs à lui, mais qui lui sont identiques, et cette identité exprime la puissance causale du monde intelligible. Cette identité de nature est le signe de sa perfection intrinsèque et de sa capacité à faire advenir des réalités inférieures simplement en demeurant en lui-même. Et donc cette définition de l'eidos comme précisément cette nature intelligible est l'une des clés qui permet à Plotin de résoudre les apories de la première partie du Parménide. Et nous y revenons, je boucle ainsi la boucle, en comprenant que le monde intelligible est une totalité éternelle et impassible, constituée de formes qui ne peuvent pas se diviser, on se rend compte que les apories liées à la division des formes entraînées par la participation dans le Parménide, en réalité, ne tiennent pas. C'est de l'identité de l'intellect et des intelligibles que se déduit leur capacité à rester une et à rayonner, engendrant ainsi les êtres dérivés. Je vous remercie.
Écoutez, merci beaucoup de nous avoir donné tous ces textes et de nous avoir guidés. Je pense que nous allons peut-être nourrir la discussion en revenant sur un certain nombre de textes, parce que vous avez bien montré une chose, c'est que la difficulté d'interprétation du didascalikos du point de vue de la méthode tient à la difficulté de lecture de phrases singulières. C'est quelque chose qui est chaque fois que l'on va voir le didascalikos, on s'aperçoit qu'il ne faut surtout pas se contenter des idées générales. Oui, mais c'est vraiment la micrologie là qui s'impose.
Révèle les problèmes.
Oui. Mais un bel exemple dans votre texte 5, c'est la discussion dont vous avez fait état sur Tedo Demiurgikon Autoutone. Moi, je veux dire que spontanément, c'est la deuxième interprétation qui me venait à l'esprit. Hein. Le caractère producteur, toutone, des qualités. Cet emploi du neutre et du complément, à mon avis, le sens de la langue va plutôt dans la deuxième interprétation. Hein. Pour ce qui est du problème grammatical que vous posez, de construction dans le texte 6, là, il n'y a pas de solution qui puisse venir vraiment de la seule grammaire, si vous voulez.
Oui.
Sauf peut-être, mais c'est très compliqué, le sens de hopper, qui pourrait porter plutôt sur ce qui précède immédiatement. Mais est-ce que c'est un argument vraiment
contraignant,
je m'interroge. Hein.
Il y a une vraie difficulté, là, je pense, et qui, du coup, entraîne des vrais problèmes d'interprétation.
Oui. Il y a une question, là. Là, j'ai marqué antécédent. Quel est l'antécédent ? On a deux candidats possibles. Hopper, souvent, quand même, s'accroche à ce qui précède. Il faudrait peut-être garder ça de plus près. Il y a un autre problème dans cette phrase, c'est que c'est très intéressant que les idées soient au pluriel, et non pas au singulier.
Exactement.
Je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser, mais enfin, ce sont deux exemples très 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 intéressants du type de difficulté que l'on a. Voilà, donc là,
je vous en prie. Pour reprendre votre remarque là sur Hopper, Hopper ça veut dire aussi parfois quel qu'il soit, qui celui, quel qu'il soit, qui. Donc aussi de manière un peu indéterminée, donc, comme hostis parfois. Non pas ça semble tellement aller. Enfin, je sais pas, moi, je l'aurais tellement aussi lu directement avec ce qui se raccroche juste avant.
Votre sentiment, moi c'était le mien aussi.
Quelle que soit sa ressemblance avec les idées.
Oui. Non, mais une forme, je sais pas comment on pourrait traduire, je sais pas comment quelle traduction on obtient, mais quelle que soit cette genre de forme, elle tâche de ressembler, elle va dans la ressemblance aux idées, elle ressemble aux idées. Et que c'est quelque chose de moins précis que cette composition de matière et de.
Rattacher Hopper à Sundiasma semble très subtil
et
un peu contourné. Enfin, mon premier mouvement est trouvé que c'est une.
Parce que c'est
pour faire original.
Oui, faire bon sens, bien sûr.
De deux choses l'une. Soit cette ressemblance passe par la forme seconde. Et donc, ça ne change rien à la signification. Soit on considère que la ressemblance, c'est le composé. Alors, on part dans des considérations philosophiques un peu éloignées de la tradition platonicienne.
Oui. Hein, voilà. Oui. Mais bon, j'indiquais le problème à titre de...
Ça me semble vraiment
une subtilité
qui fait quand même une...
Qui complique les choses. Oui, je suis un peu d'accord. Mais bon.
Si vous lisez... Si vous faites chanter la phrase dans votre esprit, si vous la lisez à haute voix, franchement, c'est ce que dit Fabienne, c'est-à-dire qu'on accroche le pronom relatif à ce qui précède immédiatement.
Mais il n'en reste pas moins que le texte n'en dit pas plus, puisqu'il dit que c'est du sphrastone et que de toute façon, cette participation reste difficile à expliquer et que, en fait, on ne sait pas bien comment les intelligibles seconds participent éventuellement au premier. Et cherche à y retrouver. Exomoyunta, en plus, il y a l'idée de dynamisme, de se rendre semblable à. Alors, comment ces intelligibles se rendraient semblables au premier c'est vrai que c'est difficile et qui nous laisse sur notre interrogation, d'une certaine manière.
Mm-hmm. Aucune origine n'en est donnée, de ces intelligibles secondes.
Absolument. Mais si je lis ça avec des lunettes alexandrines, hein, venant de...
Oui.
En me mettant à la place... Pour un professeur du 6e siècle, ça va de soi. Hein.
Bah,
c'est-à-dire
oui,
vous avez l'universel Proton Paul Lowe, c'est l'idea. Les universaux Anton Paul Lowe, c'est l'eidos. Et puis le tour est, le tour est joué.
C'est-à-dire que... Mais bon, si on les enlève et qu'on essaie... bien
sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ex homo iutai signifie un effort d'assimilation pratiquement ascendant.
Ouais. Voilà, c'est ça.
C'est pas la copie, il y a quelque chose, ça s'assimile à de façon ascendante.
Voilà, c'est
ça qui est intéressant.
Voilà.
Comme s'il y avait une sorte de dynamisme ontologique faisant que la forme dans la matière
remonte.
Oui, c'est intéressant ça. Oui. Bah, c'est un petit peu tout ce que Proclus dit dans son commentaire du Timée.
Excusez-moi,
mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, évidemment.
C'est ça qui est étonnant. Donc.
Parce que le rapport d'image à modèle pour le Timée, selon Proclus, c'est une sorte d'immense effort du cosmos pour s'assimiler au...
Mais il n'a pas du tout ces niveaux de raffinement, donc c'est très étonnant de le trouver là, précisément.
Oui, mais ce n'est pas étranger à l'époque, parce que chez Numenius, on a quand même l'idée que le démiurge, il va faire remonter le sensible vers lui-même.
C'est le démiurge.
Il va remonter, c'est pas... Et après, dans le fragment 19, il y a aussi une idée qu'on va devoir participer soi-même au type de pensée du premier. Donc il y a quand même une idée qu'il y a un effort ou on fait remonter l'intelligible. Ça, c'est le démiurge qui intervient parce que c'est nécessaire. Et au fragment 19, c'est il faut faire l'effort de participation au type de pensée propre au bien pour pouvoir être dans le bien et même exister, je dirais, parce que pour recevoir la couleur. Dit Numenius, mais la couleur c'est la vie, c'est le sang dans le corps aussi, les images de la couleur, c'est les images de la vie, on la retrouve chez Plutôt, je crois, cette image.
Donc pour rapporter ça au Parménide, il y a quand même, et Caroustine nous en a parlé la semaine dernière, un très long passage sur le rapport. De la deuxième partie avec les catégories et les parménides. Donc ça, c'est vraiment très, très important.
Tout à fait.
Donc, vous avez insisté sur la première partie.
Oui.
Donc,
d'une part... Parce que je me suis douté de ce dont il avait parlé.
C'est pour ça que j'ai... Non, mais c'est très bien, parce que ça fait la suite. Et donc, la première partie avec, deux points centraux.
Oui.
D'une part, de quoi y a-t-il des formes?
Et deuxièmement,
comment expliquer la participation, mais justement en présentant la forme comme des pensées.
Oui.
Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que il est intéressant de voir comment... Alcinoos réinterprète ce que Platon dit de ce dont il y a les formes.
Oui.
Donc le rapport avec la fusée, c'est vraiment très important. Oui. Et c'est important tout simplement, justement, pour rendre compte de cette idée suivant laquelle la forme doit être éternelle et doit être autotélèse. Tout simplement parce que si on prend les objets fabriqués par l'homme, il ne peut pas y avoir de forme de toute éternité, puisque de toute façon, il y a le protos euretes qu'on retrouve dans tous les textes de l'Antiquité, c'est-à-dire l'inventeur, celui qui pour la première fois a inventé. Donc cet ajout cataclysine ou fusei, à mon avis, c'est là justement pour justifier l'idée que la forme est aionome.
Oui.
On voit de ce point de vue-là, ça présente beaucoup de... ça remet le passage du Parménide dans son contexte, plutôt un contexte qui se rapporte au séisme. Mais moi, la question que je voulais vous poser, mais c'est la question sur laquelle vous avez travaillé pour votre thèse.
Oh mon Dieu.
C'est ce que vous entendez par ce qu'on trouve dans le texte 2, là.
Lequel?
Tas, Ideas,
Seï,
Teu, Aionus, Tekai, Ototelei. Et Ototelei.
Oui.
Donc la question, justement, c'est de savoir. Bon, c'est la question que Porphyre posait à Platon quand il est arrivé dans l'école de Platon. La question est de savoir si. Les idéaux sont seulement des noéessais.
Des corrélats noémétiques ou produits par le dieu. Voilà, c'est la vraie question. Ça. Est-ce qu'elles sont produites par son activité ou est-ce qu'elles sont toujours déjà là et
non, parce que l'intérêt de la production par son activité, c'est qu'on a une échelle cohérente du dieu jusqu'à ce qu'il y a de plus bas dans le monde.
Oui.
Mais est-ce que c'est le cas? Je pense que pour vous, ça n'est pas. On peut penser que les formes sont des pensées du Dieu,
c'est-à-dire
sans en faire le.
Oui, mais Charpole a bien montré ça là, dans son article, dont j'ai oublié le titre, cet article célèbre, où il montre qu'en réalité, dès lors quand même qu'on a des idées produites par l'activité divine, ça fragilise quand même un peu leur statut principier.
Oui, exactement.
Comment penser un principe au sens plein d'une réalité produite par l'activité de...
Non, parce qu'on peut, estimer que les idéaux sont les pensées de Dieu, mais sans prendre pour acquis qu'elles sont des productions.
Exactement, exactement. Et là, je pense que ça dépend aussi peut-être des auteurs. C'est-à-dire, je pense qu'il y a sûrement des interprétations. Par exemple, un Philon d'Alexandrie va penser que la pensée est productrice, évidemment, et pour cause. Maintenant, c'est pour ça que je pense que son rattachement à ce qu'on appelle le néoplatonisme est problématique de ce point de vue-là. Et que, par exemple, moi, il me semble quand même qu'un auteur comme Atticus. Enfin, c'est pas le cas, Pelkinos, mais à coup sûr, je suis pas sûr que la pensée divine soit productrice des formes. Hein.
C'est toujours noésis qui est utilisé, ou est-ce qu'il y a une, comment dirais-je, soit tantôt noésis, tantôt noéma. Un problème de vocabulaire.
Oui, noéma, noémata. Hein. Oui, c'est-à-dire.
Ça peut être.
Oui, oui. Non, je crois que chez Atticus, on a les deux.
On a les deux.
Oui. Oui.
Chez Numénus.
Chez Numénus, c'est pas formulé de cette façon, et je pense que c'est pas la question qui se pose par ici.
D'accord.
Et donc, la dernière chose que je voulais dire, c'est que, effectivement, chez Platon, donc on a cette distinction entre les aïdés qui se trouvent au niveau de l'intellect et les logos qui se trouvent au niveau de l'âme.
Oui.
Et les logos sont vraiment producteurs.
Oui.
Ils produisent les corps. Et ils sont associés aussi aux qualités.
Oui.
Donc, je ne sais pas si, à partir des textes que vous donnez et à partir de ce qu'on trouve.
Mais en tout cas, Eidos, dans les Énéades, a un sens très, très large qui, à mon sens, est aussi destiné à contrebalancer ce cantonnement qu'il avait à l'époque impériale. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'il utilise très, très peu Idéa. Et dans des.
Et Platon,
et quand il l'utilise, c'est toujours dans des citations de Platon. C'est-à-dire que, par exemple, dans le traité 23, je crois justement, c'est précisément, il reprend ces exemples du Parménide. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est dans des citations très précises où le terme idéal a déjà été employé par Platon, notamment dans Timée, quand le Démiurge contemple lui. Et très très peu de fois, Plotin l'utilise à son compte et pour dire une idée, si ce n'est pour dire par exemple l'idée du feu ou l'idée. Voilà. Quand il s'agit de préciser de quoi c'est l'idée, il dit idéa. Sinon, il évite au maximum, lorsqu'il est question de la causalité des intelligibles, de ce que font les formes, de la manière dont elles naissent, c'est toujours Eidos qui a ce sens général de cette unité qui se pluralise et qui, par cette pluralisation interne qui demeure en soi, est productrice. Et donc Eidos lui permet de dire beaucoup plus de choses que ne lui permet Idéa, et notamment de le dire à différents niveaux de la procession. Ça, c'est assez intéressant parce que même Eidos a souvent l'équivalent de Logos dans les traités sur dans le traité 30, je crois. Enfin, on a plusieurs occurrences où Eidos, a des sens très très variés qui lui permettent précisément de dire cette causalité spécifique.
Et autotélaïs,
oui.
Comment est-ce que vous le...
Sur la perfection.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dis pas que votre traduction soit mauvaise, hein, mais puisque...
Ben, elles sont par elles-mêmes... Oui, parfaite parenthèse.
C'est pas tout à fait Téléiaï. Hein.
Non.
Est-ce qu'on peut dire qui a en elle-même sa fin?
Parfaitement.
C'est très
pantothélique.
Là, il y a un point de terminologie, oui, à préciser, parce que dans mon souvenir, oui, quand même, autotélès n'est pas tout à fait l'équivalent de téléios.
Non, non, c'est, vous avez raison.
C'est pas une intensification de, oui, de téléios. On l'a pour les énades.
Oui.
Les énades de premier rang, elles sont autotéléis,
oui,
par,
oui,
opposition à celles qui sont simplement des illuminations, des participations. Mmh. Et on a toutes les peines du monde à le traduire. Donc je n'ai pas de solution à vous offrir.
Mais beaucoup de ressemblances avec Proclus, un plus en liste. C'est amusant entre le.
Ça pourrait être intéressant. De...
En fait, c'est un... On va le dater encore plus tard, je dis. Un apocryphe. Un brouillon.
Il faudrait trouver une autre solution. Il faudrait trouver un autre terme. Je ne suis pas sûr que parfait convienne, mais. Mais cela dit, qu'est-ce que ça veut, indépendamment du problème de traduction,
oui, ça veut peut-être dire
aussi
simplement...
Qu'est-ce que ça veut dire exactement que c'est Noéseis autotéléis? Ma question est tout à fait naïve.
Oui, hein, oui, oui, mais peut-être que justement, c'est une façon de les désengager de leur rapport au sensible dont elles sont les modèles. C'est-à-dire que c'est peut-être cette façon de dire que... ce serait peut-être, avec beaucoup d'hypothèses, comme quand Atticus dit que ce sont des réalités, certes des paraitias, mais elles sont archikotatas, c'est-à-dire cette façon de dire qu'elles ont une espèce de valeur en elles-mêmes, et une valeur absolue, telle qu'en elles-mêmes, ces réalités.
Pas d'autre finalité.
Ça correspondrait alors au niveau le niveau imparticipable des formes, je sais pas.
Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire elles ont une valeur intrinsèque, et elles sont aussi modèles, parce que, voilà. Relativement à ce qui vient après elles. Mais en elles-mêmes, elles sont ces réalités. C'est une hypothèse. Hein.
Et du coup, la traduction un peu étymologique, quand ils sentent qu'elles sont elles-mêmes leur propre vue, leur propre délos, ne serait pas idiote.
Oui.
Je pense que vous avez raison, ça signifie là. Une transcendance indépendamment.
Irréductible au fait que des choses en participent.
C'est intéressant pour l'interprétation du statut de ces idéaux.
Mais oui.
Et donc ça signifierait qu'effectivement, ce ne sont pas des résultats de pensée.
Oui.
D'autres questions? Oui, je vous en prie.
En fait, c'est relativement aux intelligibles second et la matière. Bon, il faut dire tout de suite que je ne suis pas un spécialiste, contrairement à beaucoup de gens qui sont autour de la table. Et en fait, je découvre ici, dans ce texte, l'existence de ces intelligibles second, dont on ne parle plus du tout dans le néoplatonisme, et, me semble-t-il. Et en fait, justement, d'après ce que j'ai compris, ce sont... des principes qui sont là pour individualiser les espèces, par exemple, une espèce donnée dans la matière, bon, de faire un homme, par exemple Socrate ou Platon, c'est bien ça, et voire d'induire des mauvaises choses, enfin des ratés.
Non, le raté ne vient jamais de l'intelligible.
Non, d'accord. Mais alors justement...
Pas parce qu'on est individuel qu'on est raté. Hein.
Donc on reste uniquement au niveau de l'individuation. Oui. Donc en fait, si on prend l'idée de la matière, d'après ce que j'en ai retenu, aussi bien chez Aristote que chez les néoplatoniciens, voire Platon avec la Cora, c'est toujours elle qui explique justement l'individuation, parce que la matière résiste. Oui. La matière est complètement indéfinie chez Aristote, et donc dans ce que j'en ai retenu, c'est elle qui explique l'individuation. Alors, je voulais vous poser une question sur, justement, si vous êtes d'accord avec ça, si je ne me suis pas trompé sur le rôle de la matière comme principe d'individuation dans les autres systèmes, c'est quelle est la conception à ce moment-là chez
Alcinoos. Mais la matière, elle est ce sur quoi se projettent les qualités, précisément. Donc, elle est
uniquement. Mais si on prend, par exemple, ensuite Plotin.
Oui, ben Plotin, évidemment, la matière n'est rien qu'un support totalement.
Oui, mais il y a cette résistance aussi, cette indéfinition qui fait qu'il y a individuation des choses et non pas une seule chose de produit.
C'est compliqué, l'individuation.
Qui serait totalement jumelle de. Pourquoi y a-t-il un Socrate et un Platon, par exemple, et puis un Calas
Vous voyez, si vous prenez le chapitre 8, on a bien cette idée que la matière est un substrat qui est en attente précisément de recevoir la morphée qui ultimement vient de l'intelligible, c'est-à-dire qu'elle est elle-même sans rien, sans figure, sans qualité, elle ne possède en propre aucune figure ni aucune qualité. Donc elle est juste un réceptacle de l'empreinte qui vient de l'intelligible.
Et alors, quel est le
dans
rôle
ces conditions, elle n'est ni corporelle ni incorporelle, elle est un corps en puissance, voilà, comme on dit ça. Que l'airain est une statue en puissance.
D'accord.
C'est-à-dire que
donc
précisément,
c'est la même définition que chez Aristote.
Ben, c'est une reprise adaptée.
Voilà.
Donc elle est quand même capable en puissance de recevoir la forme. Hein. Oui. Elle n'est pas totalement, mais elle-même ne donne pas la forme. Elle la reçoit. Elle est capable de la recevoir.
Oui, mais elle est capable.
Elle est capable. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité réceptrice. Mais on peut la définir comme la capacité à recevoir la forme. Ça,
d'accord,
c'est quand même très important.
D'accord, donc ça c'est l'interprétation classique dans ce que je sais. Mais alors, justement, ces intelligibles seconds existent-ils dans d'autres théories du moyen platonisme
Oui, c'est une sorte de vulgate. Hein,
d'accord, bien sûr. D'accord, excusez-moi.
Non, vous excusez pas, c'est...
L'individuation, elle vient d'où ? La question, elle implique de savoir à quel moment il y a une différence quand justement c'est le même, si c'est la même empreinte au début.
Mais en fait,
c'est une matière complètement neutre.
Mais ça dépend ce qu'on appelle l'individuation, c'est-à-dire, je ne vais pas entrer dans le dossier redoutablement compliqué chez Plotin, mais quand même, c'est-à-dire qu'on a même un auteur comme Plotin qui cherche à faire entrer dans l'intelligible, même à ses degrés les plus bas, ce qui permet de rendre raison d'un individu, d'où la fameuse question des formes d'individu, c'est-à-dire que Plotin donne beaucoup pour l'individuation au niveau précisément des logoi, sans forcément remonter jusqu'aux formes, et reconnaît tout de même que la matière, elle va individuer sur des points de détail, c'est-à-dire plus ou moins la couleur de peau plus ou moins marquée, ou le caractère plus ou moins camus du nez, mais sachant que la camusité elle-même viendra du logoi, mais après il y a tout ce qui se passe dans la matrice, il y a même l'influence des astres, il y a l'influence du milieu, qui sont des marges d'individuation très résiduelles. Il y a ce très très beau passage où justement il dit voilà, que l'influence des astres à notre naissance va déterminer une toute petite partie du caractère, pas tout, mais une petite partie. C'est-à-dire vraiment tout ce qui appartient au matériel et qui échappe de manière générale à la puissance structurante qui vient des logoi qui elle-même vient de plus haut, c'est des résidus de notre individualité. C'est pas des choses... C'est des choses un peu aux marges de notre individualité, c'est-à-dire le nez va être un peu raté dans la matrice, ou le truc, mais un peu, voilà. C'est pas le caractère totalement qui va être changé. Voilà.
Ce qu'il faut faire intervenir dans les textes même, c'est évidemment l'histoire de les emplois des termes idion, idiotes, jusqu'à la définition de l'individu qu'on trouve chez Porphyre comme atroisma idiotetum. Oui. Ou à ce moment-là, ce n'est que par l'idée d'un bouquet de particularités que se fait, et la définition porphyrienne de l'individu ne fait pas du tout intervenir la question de la matière.
Oui.
C'est simplement l'idiotesse, c'est avec cette
formule. Si je me souviens bien, chez Plotin, on a déjà une différence, puisque en fait, il y a la forme déjà de l'individu Socrate et de l'individu Platon.
C'est plus compliqué que ça.
Il n'y a pas déjà l'individuation dans les formes.
Non, c'est une question qu'il pose. Et
il pose la question.
Voilà, mais le traité pose la question mais donne une réponse plutôt au niveau des logoi qu'au niveau des formes. C'est-à-dire que le traité pose la question et répond immédiatement avec cette capacité qu'a mon âme de remonter dans l'intelligible. Mais une fois que mon âme remonte dans l'intelligible, ça ne veut pas dire elle-même que mon âme est une forme, déjà. C'est pas parce que mon âme peut remonter au niveau des formes que mon âme est une forme. Et après, évidemment, le champ de ce qui permet de rendre raison se déploie à des niveaux plus souples, et on n'est pas obligé justement à chaque fois de remonter dans ces niveaux si élevés des formes pour rendre compte de tout ce qui fait un individu.
Oui. Dans votre deuxième texte, T2, il est question de l'inventaire de ce dont il y a une forme. Et alors, il n'y a pas d'idée des relatifs tels que plus grands ou supérieurs. Oui. Alors, ce que j'ai pas, c'est pas que j'ai pas compris parce que c'était très clair, mais c'était un peu rapide pour moi parce que je suis pas très habitué. Il me semble que dans le Parménide de Platon,
Oui, il l'admet.
Alors voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette différence, enfin réexpliquer ce que vous nous avez dit?
Oui, c'est-à-dire, il me semble tout simplement que c'est lié à cette nouvelle définition des formes comme étant les intellections du Dieu. C'est-à-dire que dès lors qu'on a cet angle très spécial de définition des formes, le Dieu ne peut pas avoir de pensée des relatifs, tout simplement.
Ah, d'accord.
Ça vient de là. C'est-à-dire, ce qui était totalement accepté avec enthousiasme par le jeune Socrate, devient beaucoup plus difficile à admettre dès lors qu'on a une définition.
Mais pourquoi le fait que ce soit des pensées de Dieu ou du Dieu rend impossible?
Mais parce qu'il ne peut rien penser ni de particulier ni de trivial.
Ah oui, c'est un principe
de...
très général.
Voilà.
Moi, je pensais que on finissait par trouver des idées pour tout.
Ben non.
Oui.
Là, ultérieurement, vous avez dans le un texte dans le commentaire de Simplicius sur les catégories où il est envisagé l'idée qu'il puisse y avoir effectivement une duplication des deux catégories entre le niveau sensible et le niveau intelligible, ce qui conduit à admettre un principe intelligible, si vous voulez, du relatif, par exemple. C'est une sorte de position extrême dans le cadre d'une ontologie générale de type platonicien. Voilà.
Parce que je me demande si cette question n'intervient pas sur les apories de la théorie des formes, comme le troisième homme ou des choses comme ça. Suivant qu'il y a ou non des idées des relatifs, certaines apories vont être développées par Aristote vont être rendues possibles, c'est-à-dire aporétiques, ou non.
Oui, mais là, on n'est pas dans ce...
Oui, bien sûr. Mais de manière générale, ça va avoir une influence.
Michel,
je voudrais faire l'avocat de Dieu pour une fois.
Oui.
Et sur l'exclusion donc des relatifs du domaine des idéaux, du domaine des intelligibles. Qu'est-ce qui empêche Dieu de... Exactement, pourquoi est-ce que Dieu ne penserait pas... Il ne peut pas penser de particulier, de réalité particulière. Mais qu'est-ce qui l'empêche de penser une relation mathématique comme celle du double à la moitié?
Ça, c'est vrai, oui.
Qui n'a rien de particulier.
Oui, c'est vrai.
Donc à ce niveau-là, on se demande pourquoi les relatifs sont exclus des pensées.
Oui, c'est vrai.
Ça me paraît problématique.
Oui. Peut-être précisément. Oui. Peut-être précisément par cette réduction extrême à la visée cosmologique qui fait que ce que vous dites n'est même pas, je ne sais pas.
Parce que j'entends bien quand on parle du Mail Zone de l'Upericone, sans doute en répondant l'idée, précisément, un individu plus grand que
qu'un autre.
Ou une quantité plus grande qu'une autre.
Oui.
Une quantité déterminée plus grande que l'autre. Mais une relation...
En tant que relation, oui. Oui. Ça devrait même être pensé par Dieu, justement.
Mais c'est
vrai.
Je trouve que Dieu ne devrait pas être content, d'ailleurs.
Non, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est vrai.
D'autres questions?
Bien, ben,
merci à vous.
Merci de cet exposé dense et problématique, assurément.
Merci beaucoup.
Donc, nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour écouter
Sabine Jourdan, n'est-ce pas, sur Numenius. Oui. Merci.
Merci à vous.
Merci.